Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. Nous avons une demi-heure pour parler de cinéma. Nous aurions pu parler de Transformers Rise of the Beast, mais on n'a pas voulu. De Waouh, le dernier Bruno Podalides, mais on ne l'a pas vu. Ou encore des Grandes Vacances de Cowboy Indien, film d'animation qui doit être pas mal du tout. Mais là encore, on ne l'a pas vu. On a vu d'autres films. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Toi, Guillaume, tu as vu deux films, dont un film d'animation.
Oui, deux films qui ont un peu de mal avec le mélange entre le fond et la forme, mais qui ne sont pas forcément inintéressants. C'est L'île de Anka Damian et Camilla sortira ce soir d'Inès Maria Barrio Nuevo.
Et toi, Manu, c'est pas l'Argentine, mais le Brésil.
Oui, avec le Règle 34 de Julia Murat.
Alors, vos films sont présents dans très peu de salles en France. Hein, c'est comme ça, ce sont des films étrangers. Enfin, ça peut s'expliquer. Et il se trouve que la semaine du 7 juin, eh bien, il y a des reprises de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un blind test et il faudra reconnaître au moins 5 de ces films qui ressortent en salle, dont certains d'ailleurs ressortent avec plus de 100 copies sur le territoire français, hein, ce qui est quand même pas mal. Mais nous allons commencer cette émission avec L'Île Rouge. Il avait été très remarqué avec 120 battements par minute. Robin Campillo est revenu dans les salles avec L'Île Rouge qui nous emmène à Madagascar pour vivre les dernières illusions du colonialisme.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Bienvenue sur la base 180.
Bienvenue à Madagascar.
Nous sommes en 71. Thomas est un jeune garçon dont le père militaire a été affecté à Madagascar. Il y vit heureux avec ses parents sans trop se douter qu'il assiste au dernier temps de l'armée française sur l'île.
Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs.
Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance.
En 2017, le cinéaste Robin Campillo remuait la croisette avec 120 battements par minute, film fleuve et enflammé sur la lutte contre le sida au sein de l'association ACT UP. Couronné du Grand Prix du jury, puis du César du meilleur film, le cinéaste français ne pouvait que revenir avec une proposition radicalement différente. C'est le cas de L'Île Rouge, qui se base à nouveau sur ses souvenirs, mais cette fois sur ceux de son enfance, passée à Madagascar dans les années 70, alors que l'île Rouge, donc, était encore sous le joug de la présence française, comme on l'appelait. L'Île Rouge a en commun avec Pacifiction de Albert Serra la volonté d'interroger la présence française à l'étranger au travers des yeux d'une personne qui elle-même fait partie du système de la colonisation. Dans Pacifiction, c'était Benoît Magimel qui interprétait un fonctionnaire de l'État de nos jours. Ici, c'est le fils de deux colons qui travaillent pour l'armée. L'enjeu du film était à la fois de redonner vie aux souvenirs d'enfance du cinéaste, de retrouver ses sensations liées à la beauté du pays sans évidemment légitimer la colonisation. Il fallait pouvoir montrer Madagascar sans tomber dans une certaine exotisation. Campillo a composé un cadre très resserré sur ses personnages, mais au sein duquel la lumière de la chef-op Jeanne Lapoirie est absolument somptueuse. Certains plans, pourtant simples comme des pieds sur des graviers qui fuient, sont d'une beauté assez sidérante. L'usage du ralenti toujours approprié chez Campillo suspend régulièrement le temps et on se dit que cette esthétique si soignée, si signifiante que le film a, aurait quand même mérité qu'il soit sélectionné à Cannes, bien qu'il soit imparfait. En effet, dès les premières images du film, celle d'un déjeuner entre voisins, on est saisi par une impression étrange, une impression de fausseté, comme si les acteurs jouaient à côté ou alors qu'ils jouaient un peu trop en force. Connaissant Campillo et sa direction d'acteur extrêmement maîtrisée, il y avait fort à parier que ce jeu particulier n'était pas le fruit du hasard. Le cinéaste dit lui-même avoir voulu montrer comment les adultes peuvent, je cite, « surjouer un personnage », que ce soit dans leur travail, dans leur couple ou en société. Ce qui se passe entre les adultes, y compris entre les blancs et la population malgache, est factice et truqué. Et, poursuit-il, dans le surjeu du couple, il y a cette idée que le mariage est une fiction et une alliance.
Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça?
Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours les qui traînent. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé.
Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle.
Voilà donc le cœur du film, l'illusion. L'illusion coloniale, l'illusion de l'âge adulte et du chemin à suivre. Tout cela vu au travers des yeux d'un enfant qui s'apprête à quitter cette parenthèse qui pour lui est enchantée car la révolution arrive puisque les Malagasy, comme on les appelle, vont se soulever en 1972. On sent que c'est un film très personnel de la part de Robin Campillo, pétri de nostalgie et d'ironie. Il fait d'ailleurs intervenir à plusieurs reprises dans le film au cours de scénettes surréalistes et assez décalées l'héroïne Fantomette, qui est le personnage de roman préféré du petit Thomas dans le film et dont le cinéaste lisait également les aventures quand il était enfant. Le casting, enfin, achève de faire de L'Île Rouge un film surprenant en conviant l'acteur espagnol, par exemple Quim Guiterrez, que l'on avait découvert non pas dans L'Île mais dans Le Dos Rouge de Antoine Barrault. À ses côtés, Sophie Guillemin, que l'on ne voyait plus trop au cinéma, on se rappelle d'elle dans un Harry, un ami qui vous veut du bien, ou encore dans L'Ennui de Cédric Kahn qu'il avait révélé avant qu'elle ne disparaisse ensuite des écrans. Et surtout, Robin Campillo donne ici à l'excellente Nadia Tereskevics son premier rôle d'adulte, puisque la jeune comédienne de 27 ans, qui était jusque-là habituée au rôle de jeune fille passionnée, comme dans Les Amandiers ou récemment dans Mon Crime de François Ozon, interprète ici la mère du jeune héros.
L'Île Rouge de Robin Campillo est en salle depuis le 31 mai. Une fille rentre dans une institution privée très traditionnaliste de Buenos Aires et fait la rencontre d'une camarade de classe qui cache un secret. C'est Camilla, sortira ce soir.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Il n'y a pas que lorsqu'on est la nouvelle reine d'Angleterre, après avoir été la seconde femme la plus détestée du Royaume-Uni, qu'on a des problèmes. Hein. Camilla, c'est le nom de l'héroïne de Camilla sortira ce soir, est argentine et a un statut beaucoup moins bourgeois. Alors il n'empêche qu'elle doit quitter le lycée public qu'elle fréquentait pour une situation privée très traditionnaliste lorsque sa grand-mère tombe gravement malade et qu'un déménagement à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur s'impose alors pour garder toute la famille réunie. Forcément. Camilla découvre un milieu tout aussi codifié, tout aussi vache. Rappelons-nous que l'adolescence est une période de guerre dans une vie, car les enfants peuvent être de parfaites ordures quand ils sont sans filtre, mais hostiles à sa manière. Les choses ne disent et ne se vivent pas de la même façon, mais ce qui reste, c'est une certaine oppression faite aux femmes via un conditionnement calculé et d'autant plus réducteur quand éclate l'âge où l'on ne peut, du fait des multiples changements que l'on subit, entrer dans une case. Et surtout, quand on est comme Camilla, passant d'un univers à un autre et donc ne correspondant à aucun moule préétabli. Mais comme l'union fait la force, Camilla fait la rencontre de Clara, une camarade de classe qui va l'amener à repenser son quotidien et va entraîner une petite révolution pour la jeune fille. Alors une révolution existentielle, une révolution sexuelle, une révolution essentielle. Mais est-ce que c'était tout autant essentiel comme révolution pour le spectateur ?
Mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi
L'avantage avec la mise en scène, c'est qu'elle ne ment pas. Si certains messages peuvent être obscurs, ou certaines volontés des concepteurs peuvent être parfois nébuleuses, la manière de raconter une histoire par un choix réfléchi et construit d'images qui se succèdent sont des marqueurs indivisibles d'une façon de s'emparer d'un sujet et qui fait la personnalité d'un auteur. Le film d'Inés Maria Barrionuevo s'ouvre sur des plans taille et poitrine avec un arrière-plan constamment flou et ne se séparera jamais de cette manière de construire le réel du film. Le problème est que cette manière de construire le réel et celui de tous les films actuels, en s'aventurant sur le terrain des films dits sociaux et ne transforme jamais ses luttes essentielles, du moins pour les personnages quand ils se sentent concernés, en véritable objet de cinéma. Alors ici, hein, ce n'est pas un parti pris visuel unique, hein, vraiment fort à la Elephant de Gus Van Sant pour cerner la monotonie des adolescents et de leur vie, hein, ou encore hein, le noir et blanc de Rusty James de Francis Ford Coppola, hein, pour montrer un petit peu leur prison interne comme externe. Non, hein, Camilla sortira ce soir, hein, malgré un titre qui nous invite à nous évader, hein, autant que le personnage principal reste désespérément enfermé dans les carcans télévisuels d'un drama que l'on a vu mille fois. Alors certes, ça a le bon goût hein, de ne pas tenter le registre du film de genre comme Medusa d'Anita Rocha da Silveira, sorti l'année dernière et assez semblable sur certains points, mais l'excitation est en berne hein, face à tant de lieux communs et si peu d'imagination pour nous les faire partager. Alors l'émancipation féminine passe encore une fois par un chemin si balisé qu'on en viendrait à se demander si ce genre de spectacle n'est pas devenu aussi réactionnaire hein, que ceux que ses concepteurs cherchent à dépasser avec ce genre de proposition affichant un encéphalogramme désespérément plat. La promotion du film, axée principalement sur le fait que 80% de l'équipe du film est composée uniquement de femmes, en dit long sur le fond d'un film qui au final ne raconte pas grand chose de percutant sur l'état de son pays, son histoire et ses habitants, et encore moins de ces femmes. C'est dommage car sur 4 films, c'était le premier de la réalisatrice à atteindre nos salles obscures et le sujet ne manquait franchement pas d'intérêt.
Eh bien nous verrons bien si avec un prochain film, elle te contentera, Guillaume. Camilla sortira ce soir, est en salle depuis le 7 juin. Allez, c'est le moment maintenant de jouer au blind test de cette émission.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Depuis le 7 juin, dans les salles françaises, il y a une petite flopée hein, de films qui ont marqué l'histoire du cinéma qui ressortent. Et donc l'objectif de ce blind test, ça va être de découvrir 5 titres de ces films. Alors il y aura des choses très très faciles et puis des choses peut-être un peu moins faciles, mais là on va commencer facile. Premier extrait.
Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics. Must I forever be
a beggar? Bon, mais c'est trouvé, hein.
C'est Les Affranchis de Martin Scorsese.
Oui, film de 1990, adapté du livre du journaliste Nicolas Pileggi, qui raconte l'histoire vraie hein, du gangster new-yorkais Henry Hill. Le film retrace l'ascension et la chute de ce Henry Hill, interprété par Ray Liotta, dont on entend la voix française, et deux de ses amis, Jimmy Conway, interprété par Robert De Niro, et Tommy DeVito, interprété par Joe Pesci. Inoubliable rôle de Joe Pesci. Donc, des mafieux appartenant à la famille Lucchese. C'est 991 000 entrées en France. Et ce film ressort sur les écrans français depuis le 7 juin et précisément sur 101 écrans. Deuxième extrait de ce blind test, donc il faut trouver des films qui ressortent sur les écrans.
Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité?
C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
On est arrivé comment ici?
Eh bien, on sort à peine de...
Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment?
On est en train de rêver?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme.
Alors, garde-t-elle son calme modérément. C'est trouvé.
C'est donc Inception.
Oui, film de Christopher Nolan, sorti en 2010 et qui ressort donc maintenant. On y voit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Elliot Page et puis même Marion Cotillard. Dom Cobb est un voleur expérimenté, le meilleur hein, dans l'art dangereux de l'extraction qui consiste à voler les secrets les plus intimes enfouis au plus profond du subconscient durant une phase de rêve. Et là, lors d'une ultime mission, eh bien, ça pourrait lui permettre de retrouver sa vie passée, mais il doit accomplir une inception, soit implanter une idée dans l'esprit d'un individu. Le film a remporté 4 Oscars, dont celui de la meilleure photographie. Il a fait plus de 5 millions d'entrées en France et il est encore présent sur les écrans français dans 35 salles au moins Voilà.
Mais est-ce qu'ils ressortent Paprika aussi, le film de Satoshi Kon qu'Inception a quand même pas mal pillé au niveau des idées?
Eh ben non, 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 ils n'ont pas fait ce lien, en tout cas. Et on va attendre la sortie aussi du prochain film de Christopher Nolan qui arrive sous peu.
Ouais.
Troisième extrait de ce blind test qui concerne donc des ressorties de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Là, j'ai choisi un extrait pas forcément facile, pas très emblématique du film en tout cas.
Hé, hey, mon père, attendez, vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Ma chère épouse, ça la fatigue, elle n'a jamais envie d'y aller.
C'est dommage.
Oui, il faut que j'y aille seul. Mais j'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques. Vous avez envie de voir un film avec moi? J'ai des places pour le Crest. On joue Othello.
Avec qui?
Avec qui? Debbie Reynolds et Desdemone, et Othello, c'est Groucho Marx. Ça vous va?
Je l'ai vu.
Une dernière fois. Vous voyez un prêtre qui collerait dans cette affaire?
Je vous en prie.
Non, répondez à la question, père paranoïa.
Alors, trouver Manu.
Oui, alors j'ai un peu. Je savais qu'il ressortait cette semaine. Donc quand j'ai entendu mon père, ça m'a donné un peu la puce à l'oreille.
Et donc c'est.
C'est L'Exorciste.
Oui, de William Friedkin, sorti en 1973. L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan. Hein, après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite fille a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l'habite et désespérée, eh bien, cette dernière, sa mère, donc, fait appel à deux exorcistes. L'Exorciste fait partie des films maudits hein, du cinéma. Il est entouré de 9 morts durant le tournage. Depuis qu'il est sorti en 1973, il a recueilli plus de 6,6 millions d'entrées en France et il ressort, il va encore augmenter ce score puisqu'il ressort sur 26 écrans français. Quatrième extrait de ce blind test, donc il faut retrouver des ressorties de grands films au 7 juin.
Vous avez fini votre journée? Vous allez dormir?
J'en ai l'intention.
Un peu de café?
Non, merci.
Vous voulez manger?
Non plus.
Vous prendrez bien un verre.
Je veux bien un verre.
Carlos dit que c'est la bouteille pour les hôtes de marque. Vous avez besoin de dormir. Changeons de chambre, vous serez à l'abri des tueurs.
Tout ce que je veux, c'est ce verre.
Alors c'est tout ce que je peux faire pour vous.
C'est tout, vous me l'avez déjà demandé.
Vous avez raison. Excusez-moi.
Mettez ça sur la note.
Prenez ma chambre, les hommes de Burdett ne vous y chercheront pas. Je vous souhaite une bonne nuit.
Vous n'aurez rien fait pour ça.
C'est trouvé.
Alors, je suis un peu partisan, mais je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. C'est Rio Bravo.
C'est un film de Howard Hawks, hein, sorti en 1959. On entend la voix française de John Wayne. Un shérif arrête le frère de l'homme le plus puissant de la région. Il n'a pour allié qu'un adjoint ivrogne, un vieillard boiteux, un gamin virtuose du revolver, une joueuse de poker et un hôtelier mexicain. Et contre lui, une armée de tueurs. Depuis sa sortie en 1959, il a réuni 3,6 millions d'entrées. C'est quasiment deux fois moins que L'Exorciste. Et il est à nouveau présent sur les écrans français dans 16 cinémas. Allez, dernier extrait de ce blind test qui concerne des ressorties en salle de grands films. J'avoue que là, c'est très très facile, mais cet extrait me fait extrêmement plaisir.
Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là,
Dave? En dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
Ah, sacré intelligence artificielle. Donc,
sacré Elon Musk.
Donc, c'est 2001. Hein.
Oui, 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick sorti en 1968. Le film s'inspire de deux nouvelles d'Arthur C. Clarke. Un film qu'il est difficile de résumer. Hein. Ça commence à l'aube de l'humanité, puis nous arrivons 4 millions d'années plus tard, où on voit un monolithe noir présent sur la Lune qui envoie des signaux à Jupiter, et c'est pourquoi une mission est envoyée vers Jupiter avec à son bord HAL 9000 qu'on entend ici, un ordinateur exceptionnel qui est doué d'intelligence et de parole, mais qui fait un mauvais coup. Eh oui. Oscar des meilleurs effets visuels seulement, 3,2 millions d'entrées pour ce film de Stanley Kubrick, qui fait partie de mes films fétiches, que j'avais eu le plaisir de voir au cinéma il y a quelques années déjà. Et j'avoue que bon, j'ai dû le voir 4-5 fois ce film, mais le voir au cinéma, c'est quand même un sacré événement. Et il se trouve qu'il est présent sur 89 écrans en France, donc depuis le 7 juin. Si vous avez, allez, c'est quoi, 2h30 à perdre, n'hésitez pas. Ainsi s'achève donc ce blind test qui concernait donc des ressorties de films du cinéma. Alors il semblerait que ce soit des films de la Warner. Il y a aussi Casablanca qui ressort sur 94 écrans. Il y a Gran Torino de Clint Eastwood sur 11 écrans. Il y a Blade Runner de Ridley Scott sur 19 écrans. Et Joker de Todd Phillips sur 10 écrans. Voilà.
Là, il fallait bien un petit canard. Oui.
Il n'y a pas de transition pour passer au prochain film dont nous allons parler. C'est la règle 34. Cette règle 34, elle vient d'Internet et elle stipule que si quelque chose existe, alors il y en a forcément une version porno. Allez, c'est toi qui nous en parles, Manu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Récompensé au Festival de Locarno hein, avec le Léopard d'Or, règle 34, œuvre très curieuse, hein, même... plus que curieuse, très bien, hein, à la fois charnelle et théorique, aborde de front un sujet sociétal qui parvient à tisser un arc narratif entre deux pôles antinomiques, l'un appartenant à la sphère du privé et l'autre à celle du public. Alors pour étayer un début d'explication, référons-nous au titre. Alors qu'est-ce que la règle 34 hein, tu as un peu introduit hein, une définition. Il s'agit en effet hein, d'une catégorie érotique ou pornographique qui suggère que sur n'importe quel sujet, il existe un équivalent pornographique. La maxime de cette règle est d'ailleurs, si ça existe, il y a du porno à ce sujet. Alors le film s'approprie cette notion en explorant deux univers distincts qui, par l'intermédiaire du protagoniste central vont se recouper ou du moins trouver une résonance sous la forme d'un miroir déformant et ou inversé. Alors Simone est une étudiante en droit le jour engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes au sein même d'une société brésilienne oppressive. Hein. Rappelons-le, le film a été réalisé hein, donc, il y a peu de temps sous le gouvernement de Bolsonaro qui a instauré un régime donc, d'extrême droite affichant clairement une nostalgie pour les dictatures militaires et une absence de considération notamment pour le droit des femmes et des homosexuels. Alors cette étudiante, hein, qui n'est pas à une contradiction près, endosse la nuit le rôle d'une camp girl devant son ordinateur, moyen comme un autre de gagner sa vie. Sauf que progressivement, elle va explorer ses propres penchants masochistes qu'elle va partager avec des clients peu recommandables, peut-être les mêmes qu'elle combat quotidiennement dans son action militante. La règle 34 s'applique donc au récit de manière très claire. Là où existe une violence exercée sur les femmes dans la vie réelle, cela se produit, même dans un cadre fantasmatique, dans la pornographie.
Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político pra você.
Sans pudibonderie ni voyeurisme, Règle 34 commence très fort avec une séquence frontale où Simone se masturbe plein cadre. La réalisatrice n'élude pas la dimension sexuelle de son film qui t'a provoqué un malaise. Plus tard, Simone, très concentrée, assiste à un cours universitaire, analyse critique de la situation politique du pays. Julia Murat a construit un personnage passionnant qui, malgré son jeune âge, a vécu. Simone a édifié une barrière entre deux espaces qui a permis de structurer sa personnalité. Alors d'un côté, elle évolue à l'intérieur d'un environnement social sain, dans une dynamique d'ouverture et de contestation, et de l'autre côté, dans l'espace intime, elle se laisse aller au vertige d'une sexualité trouble et sans tabou. Alors progressivement, Simone va repousser ses limites et faire voler en éclats cette fameuse barrière au point de se mettre en danger physiquement et psychologiquement. En découvrant ses propres intérêts sexuels, hein, elle s'immerge dans un monde de violence et d'érotisme qu'elle pensait maîtriser. Alors cette frontière poreuse hein, s'applique au film qui démarre sous les auspices, on va dire bon teint, d'une analyse un petit peu didactique de la société brésilienne à travers le prisme du sexe et de la politique, pour dériver vers une sensation plus vertigineuse assumée par la réalisatrice, hein, attirée par ce qu'elle voulait dénoncer dans un lâcher-prise assez perturbant. Réflexion passionnante sur un pays patriarcal régi par une violence systémique, intégrée et acceptée par la majorité, victimes et bourreaux confondus, Règle 34 est un film vraiment étonnant, dérangeant, qui se refuse à toute forme de moralisme. La pornographie n'est pas pointée du doigt comme un fléau, son instrumentalisation est liée au système en place. Le porno extrême est potentiellement dangereux, alors se niche au cœur d'une société qui fait de la violence même son programme politique. Julien Murat diffuse aussi l'idée que la nature humaine est complexe et qu'un individu équilibré peut être attiré parce qu'il combat tous les jours dans un cadre où des règles sont fixées. Alors entre la pulsion et la raison, un gouffre existe et c'est tout le mérite de Julien Murat de fouiller là où ça gratte à travers la psyché de son héroïne, formidablement interprétée par l'étonnante Sol Miranda qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Ce film singulier et engagé souffle le chaud et le froid à travers sa mise en scène cérébrale et sensuelle, privilégiant les couleurs chaudes et puis les plans fixes installant vraiment une tension dramatique. Une réussite vraiment, moi, que je trouve absolue et peut-être un des 2-3 meilleurs films que j'ai vus cette année.
Eh bien, malheureusement, ce film est présent sur très peu d'écrans.
Je pense que c'est lié aussi au sujet qui est quand même très difficile.
Pas facile à vendre. Oui. Règle 34 donc est en salle depuis le 7 juin. Fable musicale sur le mythe de Robinson Crusoe. Nous parlons de L'Île, un film d'animation.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Nouvelle incursion dans l'animation pour la réalisatrice roumaine Anca Damian après La Montagne Magique en 2015 et L'Extraordinaire Voyage de Marona en 2020. Mais s'il est toujours question de réflexion sur nos sociétés et le fonctionnement de notre monde à plus grande échelle, son style visuel change encore une fois et elle décide, pour l'occasion, de se réapproprier l'une des histoires les plus connues, celle de Robinson Crusoe, le héros du célèbre livre de Daniel Defoe. Cette figure très identifiable et populaire de Robinson Crusoe, que la plupart des écoliers ont étudié un jour ou l'autre, va servir ici de terreau pour parler des échoués modernes. Les migrants qui cherchent une terre promise, luxuriante et apte à leur offrir un avenir meilleur et qui vont traverser l'enfer pour cela, et dont certains n'en ressortiront donc même pas. Et même si les prémices de ces thématiques étaient déjà dans l'œuvre originale et nourrissaient les adaptations qui en ont déjà découlé, nous sommes ici loin d'un traitement comme dans Solomon de Robert Zemeckis, même si ces deux films partagent un regard acerbe sur la superficialité du monde et qui a détourné le Robinson de l'histoire de ce qui faisait à la base l'essentiel de son monde. Le film s'ouvre sur Robinson Crusoe, mais un Robinson très différent de celui que nous avons eu l'habitude de fréquenter jusqu'à présent. Il se rappelle et nous raconte son histoire en voix off et aussi en chanson, s'engageant sur un versant aux consonances mythologiques qui n'est pas pour nous déplaire dans le cadre d'un film qui, malgré sa fantaisie visuelle, va constamment nous rappeler l'horreur du quotidien et la morosité de l'état de la planète et du sort réservé à certains hommes. Vendredi est un migrant qui vient s'échouer sur la plage de Robinson, faisant de ce dernier non pas un homme solitaire, mais une sorte de propriétaire plutôt aisé. Il manie les cadres de son quotidien à travers une tablette numérique qui va nous permettre de voir la laideur du monde industrialisé, la violence faite aux minorités, l'horreur de la migration forcée et bien sûr les rapports de force idéologiques et géopolitiques qui entraînent un véritable viol de l'écologie et de la santé de notre mère à tous, la Terre. L'inspiration principale semble être les toiles de Dali, en particulier la persistance de la mémoire pour les couleurs, l'utilisation décalée des objets dans un décor naturel qui permet une appréhension différente de l'ensemble pour le spectateur. Dali aimait quelque part aussi Duchamp dans cette propension à transformer les objets inanimés et parfois les plus laids et banals du quotidien en choses animées et vivantes, comme ces plots qui deviennent une queue de sirène, une couverture de survie qui devient un gilet. Il y a plein d'idées visuelles absurdes et poétiques, des associations d'images, de mots et de musique permettant de rendre digeste le message qui oublie parfois d'être un film narratif vraiment captivant. Alors ces idées rattrapent les errances d'une symbolique aussi légère qu'un poids lourd, et par conséquent les inévitables longueurs qui s'invitent lors du visionnage, couplées au fait que vu qu'il y a un aspect musical tout le long du film, Robinson et les personnages répètent très souvent et à la suite la même phrase. Alors le film a quand même la bonne idée de finir sur une image positive liée à l'enfance qui représente l'avenir, parce que je rappelle que le sujet est quand même extrêmement sombre, même si on se demande si ces mêmes enfants constitueront un public qui se sentira vraiment concerné, surtout à l'heure des films d'animation au cinéma que Super Mario Bros. Le film, mais qui eux sont des cartons absolument stratosphériques au box-office.
L'Île est en salle depuis le 7 juin. Allez, nous terminons cette émission en parlant de la quinzaine des cinéastes qui se retrouvent un peu partout en France.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Cannes n'est plus réservé qu'aux festivaliers grâce à la quinzaine des cinéastes, une des sections du festival qui s'exporte dans toute la France du 7 au 18 juin. Vous avez l'occasion de voir l'ensemble des 19 films programmés en mai dernier. Ça représente donc 10 jours d'avant-première dans une trentaine de salles dans le pays. Alors c'est le cas au Ciné 32 à Auch, à l'Astré à Chambéry, au Comédia à Lyon, au Diagonale à Montpellier, au Sémaphore à Nîmes, au TNB à Rennes ou encore à l'Omnia à Rouen, autant de villes où vous nous écoutez. Mais comme il y a le podcast, fondamentalement, vous nous écoutez partout. donc le mieux est de regarder sur le site de la quinzaine des cinéastes quelle salle est partenaire. Malheureusement, je n'ai pas vu grand-chose hein, de cette sélection, mis à part le film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions, qui est un film étonnant, fantaisiste et jouissif. Autre film français dans la sélection, le dernier Bertrand Mandicot, Conan, dont j'ai entendu beaucoup de mal, et Le Procès Goldman de Cédric Kahn, dont à l'inverse, j'ai entendu grand bien. Et à noter quand même Kinside, The Yellow Cocoon Shell de Tien Anh Pham est le film qui a gagné la caméra d'or au dernier festival de Cannes, donc il est considéré comme le meilleur premier film de cette compétition, ce n'est pas rien. Voilà, donc allez sur le site de la quinzaine des cinéastes pour profiter de toutes ces avant-premières.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et vous aurez chacun un film.
Oui, pour moi ce sera Stars at Noon, de Claire Denis.
Et moi un film d'animation produit par A24, Marcel le coquillage.
À la semaine prochaine.